Voilà. Il est 19h30 et nous recommençons donc cette nouvelle série de conférences grand public de l'Institut d'astrophysique de Paris, après une période qui a été extrêmement compliquée, comme vous le savez, à cause de. Bon, je ne dis pas, j'en explique pas les raisons, vous les connaissez. Et ce soir, eh bien, nous sommes dans une situation de transition, puisque nous avons quelques personnes qui sont là en public. La conférence aura lieu en présentiel à l'Institut d'astrophysique de Paris. Notre orateur est là, présent devant nous. Et en même temps, eh bien, cette conférence va être diffusée en direct sur YouTube. Voilà. Là, donc c'est une petite période de transition expérimentale. Et nous espérons qu'au cours des mois, eh bien, nous allons remplir la salle à nouveau. Mais nous avons quand même acquis comme bénéfice secondaire de tout ce qui s'est passé, eh bien, la possibilité maintenant de faire du direct en même temps que nous aurons cette session ici en présentiel. Alors, le mois prochain, et le 6 octobre exactement, mardi 6 octobre, eh bien, une autre conférence sera donnée par Michel Gonin du laboratoire Le Prince Ringuet de l'École Polytechnique. Et cette conférence est intitulée Une nouvelle ère impériale pour les neutrinos au Japon. Il s'agit de l'expérience Super Kamiokande, une expérience qui se situe à 1000 mètres de profondeur dans une mine de zinc près de la ville de Kamioka. Là aussi, il n'y aura pas de public à l'Institut d'astrophysique, donc cette conférence sera visionnée en ligne, et le lien vous sera donné très prochainement, je crois la semaine prochaine même, sur le site de l'Institut d'astrophysique de Paris. Voilà. Mais pour ce soir, voilà, nous allons parler avec Samuel Tchaléa. Parce que nous sommes astronomes, et bien, ça fait déjà pas mal d'années que les astronomes se demandent s'ils sont une espèce en voie de disparition, combien de temps ils vont pouvoir travailler. Ça touche d'ailleurs aussi bien les astronomes professionnels que les astronomes amateurs. Mais évidemment, parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des sites où on peut observer le ciel dans des conditions favorables, aussi bien du point de vue climatique que du point de vue de la pollution lumineuse. Et sans même évoquer les astronomes, eh bien, l'événement du mois de cet été, l'arrivée de la comète Neowise, n'a pas tellement pu être vu par les gens qui habitaient les grandes villes. Pourtant, c'est un phénomène formidable, extraordinaire, magnifique à regarder. Donc, beaucoup de gens n'ont même plus la possibilité de contempler la Voie lactée. Et voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes dit, tiens, nous allons inviter Samuel Chaléa. Alors, Samuel Chaléa est docteur en géographie. Il travaille au laboratoire Géode, qui est une unité mixte du CNRS et de l'Université de Toulouse. Il est également coordinateur du collectif Renoir. Il nous en dira quelques mots pendant sa conférence, donc traite de ressources environnementales nocturnes et territoires. Et donc, il va nous parler de problèmes de la pollution, l'obscurité, comment préserver l'obscurité, comment valoriser l'environnement nocturne, comment lutter contre la pollution lumineuse. Et j'ai observé qu'il a publié évidemment un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle Sauver la nuit, dont il va nous parler, j'espère, amplement. Mais au-delà de cela, eh bien, il continue ce travail lié aux nuisances, mais pas seulement visuelles, puisqu'il s'intéresse également à la pollution sonore, puisque nous avons tous remarqué pendant le confinement que, eh bien, nos oreilles devenaient attentives à des formes de son et de sonorité qu'on n'entendait pas auparavant. Donc c'est une préoccupation qui maintenant est au cœur de ses activités. Voilà, ça c'est en lien. Donc c'est le Covid qui a donc d'une certaine façon la Covid qui a apporté cette problématique nouvelle. Voilà, donc je vais me taire maintenant, je vais vous laisser parler et puis ensuite il y aura des questions qu'on partagera, que je vais donc suivre sur Internet. Vous pouvez poser les questions, ceux qui nous suivent en ligne, et on partagera donc par des échanges ce questionnement, et avec la salle aussi. Merci Samuel.
Merci Daniel. Alors
Je voulais juste
effectivement,
ajouter quelque chose quand même. Quand on regarde ce livre-là, il y a une accroche qui est intéressante. Il écrit, Samuel, ça m'a beaucoup plu, « Aujourd'hui, allumer un réverbère, c'est éteindre les étoiles. » C'est un joli clin d'œil du côté du Petit Prince, et j'avoue que c'est une des motivations qui font que nous avons invité ce soir. Voilà.
Merci, merci Daniel. Effectivement, ce clin d'œil au Petit Prince, on va essayer de mieux le comprendre. En fait, qu'est-ce qui est dit dans le Petit Prince? Il dit, à propos de l'allumeur de réverbère, il dit son métier, il est véritablement utile et joli. Utile parce que joli. Hein. Donc, il y a déjà la dimension d'utilité n'est pas liée seulement à la valeur monétaire, c'est lié à d'autres formes de valeurs. Quand on va parler de ressources par rapport à l'obscurité, on va parler de valeur. Et il est véritablement utile parce que joli, parce que quand il allume son réverbère, c'est comme s'il allumait une étoile. Or aujourd'hui, qu'est-ce que nous disent les astronomes depuis les années 1950-1960? Plus vous allumez de réverbères, plus vous éteignez les étoiles. Et même au départ, c'était vous éteignez notre ciel. Hein, qui sont saisis, les astronomes professionnels plus amateurs, de ce nouvel objet environnemental à défendre. Ils l'ont porté dans l'espace public. Ils ont fait coalition de causes avec d'autres acteurs, on va voir lesquels, des écologues, des médecins, des acteurs des territoires, pour aujourd'hui en arriver à des lois qui réglementent l'éclairage artificiel et puis à des territoires qui vont activer la ressource obscurité. Ils vont dire l'obscurité, ça n'est plus quelque chose qu'il faut à tout prix annihiler, à tout prix anéantir, c'est quelque chose qu'il va falloir préserver parce que c'est une richesse. Et c'est même, pour certains territoires, un avantage compétitif, diraient les économistes. C'est-à-dire quelque chose que d'autres territoires, notamment les territoires urbains, n'ont plus. Et donc, qui a gagné de la valeur. Voilà. Donc, très rapidement, quelques mots. Effectivement, je réserve le prochain titre, Sauver le silence. Je pense que... Amélie, mon éditrice, sera content, puisqu'effectivement, c'est vrai que je travaille depuis peu sur la question de la pollution sonore, mais ce qui nous occupe ce soir, c'est la question de cette pollution lumineuse. Sauver la nuit, titre de la conférence, il fait écho à cette charte, à ce cri d'appel, ce cri d'alerte, pardon, lancé par les astronomes dans les années 1990, « Sauvons la nuit ». Titre d'une charte qui a été lancée en France par différentes associations, différents acteurs du monde de l'astronomie professionnelle et amateur, où l'invention de l'obscurité en tant que ressource. L'invention est à prendre ici au sens de découverte. On se rend compte que l'obscurité peut être une ressource pour nous humains, mais également pour le vivant non humain. Alors je profite et je rappellerai par là que j'ai un passé étant jeune d'astronome amateur, et c'est assez impressionnant pour moi aujourd'hui d'intervenir à l'Institut d'astrophysique de Paris, de voir la plaque de l'UAI à l'entrée, l'Union Astronomique Internationale. Et je profite d'être dans ce lieu pour rendre hommage à un autre astronome professionnel, Jean Kovalevski, décédé il n'y a pas si longtemps que ça, 2 ans, en 2018, qui a été vraiment certainement l'acteur nodal, hein, c'est comme ça qu'on dit en sociologie, des réseaux, etc. Quand on regarde un petit peu les jeux d'acteurs, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sortent et qui ont une importance toute particulière. Jean Kovalevski a été de ces personnes-là sur la question de la lutte contre la pollution lumineuse. Et donc, voilà, le fait d'être à l'Institut d'astrophysique de Paris aujourd'hui m'a amené à faire à lui rendre hommage par cette conférence. Et je pense qu'il serait content de voir aujourd'hui à quel point le problème est saisi par une diversité d'acteurs et de territoires à travers le monde. Tout l'enjeu de cette conférence, ça va être de glisser de la seule approche technique de la question de la pollution lumineuse, qu'on pourrait réduire à des problèmes de techniciens de l'éclairage. Quelle intensité je mets dans les lampadaires? Quelle température de couleur? Est-ce que je mets de l'éclairage chaud, plutôt froid? À quelle heure je coupe, à quelle heure j'allume mon éclairage artificiel sur ma commune quand je suis un élu. Donc de glisser de cette approche un peu technique, voire techniciste du problème, à une approche un petit peu plus large à laquelle on va accéder par la considération de l'obscurité. Donc on va prendre le contre-pied. Ce n'est pas finalement directement la pollution lumineuse qui va nous intéresser, c'est la préservation de l'obscurité en tant que ressource multifacette. L'érosion de cette obscurité, de cette ressource par l'éclairage artificiel, par la lumière artificielle, est un problème de portée globale, mais, on le voit, c'est avant tout un problème qui arrive dans les pays qui ont un niveau de revenu suffisant pour avoir un accès très large à l'énergie et à l'électricité notamment. Hein, on voit que le problème est effectivement de portée globale, mais des inégalités persistent. Ça, c'est important pour le géographe, hein, de montrer ce qui est global, mais qu'en même temps, ça n'est pas tout à fait partout pareil. Le continent africain, par exemple, est beaucoup moins éclairé que le continent nord-américain ou que le continent européen ou asiatique. Donc, c'est une image assez connue. On en reparlera tout à l'heure de cette image, parce qu'elle est devenue quasiment une icône environnementale, hein, pour un âge nouveau qu'on appelle l'Anthropocène. Et c'est un problème dont l'aggravation se poursuit. Vous avez là une image qui vous montre l'évolution de la radiance perçue par satellite entre 1992 et 2012. On voit que dans la plupart des zones du globe, l'intensité lumineuse envoyée en direction de l'espace, en direction du ciel, croît. Ça croît. On voit qu'il y a des zones où cette intensité semble diminuer. Alors, il faut faire attention, on est sur une image prise, interprétée, extrapolée depuis des données satellitaires. Et donc, effectivement, quand vous changez un luminaire, que vous remplacez un luminaire type boule, dont la moitié de la lumière partait vers le ciel, par un luminaire à LED plus récent, qui envoie toute la lumière en direction du sol, vous avez effectivement vu depuis l'espace une diminution de la quantité de lumière qui part à la verticale, en direction de l'espace. Par contre, au sol, rien ne nous dit que l'intensité lumineuse a fortement réduit. Donc, on résout une partie du problème, notamment le problème pour les astronomes, pour la vision du ciel étoilé, mais on ne résout pas tout le problème, notamment les enjeux écologiques qui se passent au niveau du sol. Voilà. Donc, il faut faire attention avec les lectures de ces cartographies, de ces tendances, etc. Mais gardons en tête que l'intensité lumineuse, de façon globale, augmente entre 3 et 6% par an, selon la zone du globe. Certains chercheurs se sont amusés à modéliser la diffusion atmosphérique de la lumière artificielle, hein, puisqu'on comprend bien que cette pollution lumineuse, la lumière est émise depuis les villes, depuis les zones densément peuplées, mais il y a autour de la Terre une atmosphère. Cette atmosphère, elle va diffuser la lumière artificielle, et donc on est là face à une pollution qui s'extrait très largement des seules limites morphologiques de la ville. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et que connaissent bien les astronomes, puisque c'est ce problème-là qui les pousse à dire aujourd'hui, notamment les astronomes amateurs, mon premier instrument d'observation, c'est ma voiture. Pourquoi ? Parce que depuis un point, par exemple depuis un point situé en région parisienne, pour retrouver le cercle jaune sur l'image, pour retrouver un ciel exempt de pollution lumineuse au zénith, vous devez parcourir 900 km. Non pas que le rayon d'influence de Paris en termes de pollution lumineuse soit de 900 km, mais vous sortez de la région parisienne, vous allez, par exemple, si vous partez en direction de la vallée du Rhône, vous allez très vite tomber sur Auxerre, sur Sens, sur Dijon, puis sur Lyon, etc. etc. Et vous êtes repoussé comme ça, de plus en plus loin, et vous devez faire 900 km pour aller en Écosse, pour aller en Suisse, pour aller en Corse, ou en Espagne, au centre de l'Espagne, pour trouver un ciel qui soit au zénith, dénué de pollution lumineuse. Mais au zénith seulement. C'est-à-dire que l'horizon, si vous cherchez un ciel entièrement dénué de pollution lumineuse, du zénith jusqu'à l'horizon sur 360 degrés, vous devez faire à peu près 1500 km depuis la région parisienne pour vous extraire véritablement de toute présence de lumière artificielle. Et ça, ça a été le problème des astronomes amateurs, notamment quand ils se sont formés en Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, quand auparavant, les différentes sociétés savantes, comme la Société astronomique de France, comme l'Association française d'astronomie, la Société astronomique de Bourgogne, le club dont j'étais membre en étant jeune adolescent, commençaient à se dire, bon, là, face à nous, un véritable problème. C'était ça, leur problème. C'était de dire, moi, en tant qu'astronome amateur, j'ai envie d'observer, mais pas trop loin de mon lieu de résidence. Je ne suis pas astronome professionnel, je ne peux pas aller construire mon observatoire à l'autre bout du monde, dans la cordillère des Andes, au Chili, en Atacama. Donc, moi, mon activité, c'est un hobby. Il faut que je le pratique le vendredi soir, le samedi soir, dès qu'il fait beau, et qu'il n'y a pas trop de lune, pour ceux qui sont amateurs de ciel profond, mais pas à 500 km. Or, maintenant, je suis obligé de prendre ma voiture et d'aller de plus en plus loin face à cette pression lumineuse. Là, finalement, ce qu'on cartographie, ce n'est pas directement la pollution lumineuse. parce que la pollution lumineuse, on va voir tout à l'heure, la définir, c'est pas la même chose pour le médecin chronobiologiste ou spécialiste du sommeil que la pollution lumineuse pour l'écologue, que la pollution lumineuse pour l'astronome, ou pour tout un chacun en termes d'expérience de nature, d'une nature obscure. Là, ce qu'on cartographie, c'est la pression lumineuse. C'est véritablement la pression, l'empreinte lumineuse des territoires urbains qui font une pression environnementale, anthropique, et qui pousse, c'est cette pression qui pousse les astronomes à sortir et à s'extraire toujours plus loin. Alors on peut aussi faire un peu de prospective. Le débat actuellement fait rage autour de ces fameux éclairages LED, pour parler un petit peu de technique, des éclairages qui ont souvent une température de couleur plus élevée, hein, dans les degrés Kelvin, qui montent à 4000, 5000, 6000, parfois degrés Kelvin, et donc une couleur qui tire vers le bleu, voire blanc. C'est l'inverse des robinets. J'expliquais ça quand je faisais beaucoup d'animations en astronomie, je sortais le briquet où je disais que la température des étoiles était l'inverse des robinets. Pour les températures de couleur des luminaires, c'est la même chose. Et donc le blanc, la lumière blanche, a tendance à plus se diffuser dans l'atmosphère. Et donc, là, on a une prospective. Si toute l'Europe occidentale passe à des éclairages LED à 3000 degrés Kelvin, voilà ce qui se passe en termes d'empreinte lumineuse. L'état actuel, image de gauche. L'état prospectif, image de droite, avec un passage à la LED. Vous voyez que l'intensité de l'empreinte lumineuse, de la pression lumineuse, sur les espaces environnants, les espaces urbains, s'accroît en taille et en intensité. Donc voilà, problème technique. Or, on en parlera tout à l'heure certainement ou dans les discussions, quand la LED est arrivée, on a crié victoire du point de vue des économies d'énergie. Donc on voit, c'est ça, tout l'enjeu, la complexité du sujet, c'est que la réponse à un problème, la dépense énergétique, les économies budgétaires pour les communes, peut créer elle-même de nouveaux problèmes du point de vue de la qualité du ciel étoilé, de la qualité environnementale nocturne, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment chemin faisant qu'on découvre les problèmes générés par cette lumière artificielle. Alors, ces problèmes générés par cette lumière artificielle, ils sont de plusieurs ordres. Là, j'ai deux diapositives un petit peu rébarbatives, je m'en excuse, mais j'ai voulu passer par un cadre analytique largement utilisé aujourd'hui sur les questions environnementales, même si critiqué, tout cadre analytique, parce que s'il est scientifique et de facto critiquable, doit être critiquable, c'est le cadre des services écosystémiques. Montrer qu'en fait, l'obscurité génère, produit des services écosystémiques. Des services supports, des services de régulation, régulation de la géosphère, régulation des populations, régulation sanitaire. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais parmi ces services, certains sont affectés par la lumière artificielle, d'autres, pas du tout. La régulation de la géosphère, par exemple, c'est notamment le rôle de l'obscurité sur la régulation des températures de surface de l'océan, des températures de l'eau dans les lacs, etc. Ça, la lumière artificielle ne vient pas perturber ce service rendu par l'obscurité. Le fait qu'il n'y ait pas de lumière pendant la nuit permet aux températures de surface océanique, par exemple, ou aux températures de surface des sols, de diminuer un peu, et ça régule de façon géophysique, enfin la géophysique. Par contre, on a des services rendus par l'obscurité qui sont directement dégradés par la lumière artificielle. Les services de régulation des populations sont tous les services écologiques rendus par l'obscurité, on en reparlera un petit peu plus loin. Les services sanitaires, l'alternance naturelle entre la lumière et l'obscurité va servir à notre corps, à se resynchroniser en permanence. Sinon, on a tendance à se désynchroniser, à se caler plutôt sur 25 heures que sur une journée de 24 heures, ce qui peut poser problème au bout de quelques jours. Donc, on a besoin de cette alternance naturelle entre lumière et obscurité pour se resynchroniser. Et il y a plein de fonctions métaboliques derrière, en chaîne, en conséquence, qui peuvent être affectées par une désynchronisation de notre horloge biologique interne. Et puis, on a des services culturels. C'est peut-être par ces services qu'on est rentré, c'est même certainement par ces services que la problématique de la pollution lumineuse a émergé. L'activité scientifique est une activité sociale comme une autre. On aimerait bien, nous scientifiques, se penser hors de toute activité, enfin avoir un statut un peu à part entière pour la recherche, mais la recherche est une activité sociale comme une autre. L'astronomie amateur est une activité sociale. Donc c'est bien la défense d'un service culturel rendu par l'obscurité, l'accès au ciel étoilé, qui a été porté par les astronomes. Puis, dans les années 80, sont arrivées les problématiques écologiques, dans les années 90-2000, les problématiques sanitaires, et aujourd'hui, on voit que ce qui permet le retour de la problématique pollution lumineuse dans les territoires, ce sont à nouveau ces services culturels. Mais plus, non plus seulement pour l'astronome, pour tout un chacun. On va parler d'expérience de nature, on va parler d'observation des paysages nocturnes, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez, là on voit bien la dimension multifacette de l'obscurité. L'obscurité offre, génère des services environnementaux, écosystémiques, qui sont dégradés plus ou moins fortement, plus ou moins long terme, par nos usages de lumière artificielle. Alors, valoriser cette obscurité en tant que ressource, ça a été compliqué pour les astronomes, notamment pour les astronomes amateurs. Quand ils sont allés voir les élus, quand ils ont essayé de communiquer auprès du grand public, il y avait un grand problème. C'est que la lumière artificielle, ça reste une lumière. Et la lumière, dans nos mythologies, porte la symbolique et l'archétype du progrès. La lumière, on le sait tous, c'est le bien contre le mal. C'est la lumière des savoirs. L'image de gauche, c'est le frontispice de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Voilà. C'est la lumière, c'est la vérité, c'est la philosophie dévoilée. Hein, on fait la lumière sur quelque chose. Quelqu'un qui renâclera à accepter les arguments de la science sera taxé d'obscurantisme, voilà, rejeté dans l'obscurité. C'est le progrès divin, quasi divin. Vous voyez, quand l'éclairage au gaz arrive, hein, les Beckauer, gaz, pétrole, regardez cette image, cet imaginaire dans l'image du milieu. On montre la lumière comme on montrerait une divinité. C'est la symbolique du progrès urbain, et même la symbolique de toute l'urbanité, dans ce qu'elle a de poli, d'hygiénique. Voilà, c'est véritablement le progrès. Quand la lumière arrive dans les territoires, c'est le progrès qui arrive avec elle. Et ça, il ne faut pas croire, mais c'est encore bien présent aujourd'hui. Dans de nombreux territoires dans lesquels je travaille avec mes collègues du collectif Renoir, j'y reviendrai tout à l'heure, reste encore l'électrification dans certains territoires, c'est pas si éloigné que ça. Hein, les grands plans d'électrification, c'est l'après-Seconde Guerre mondiale. L'arrivée de l'éclairage artificiel dans certains territoires ruraux sont les années 1950-1960. Donc ça veut dire qu'on a encore dans les municipalités, par exemple, des personnes qui ont connu cette arrivée de l'éclairage artificiel. Et quand vous leur proposez d'éteindre, de couper l'éclairage public en milieu de nuit, pour des questions environnementales, vous leur proposez de leur reprendre le progrès que vous leur aviez apporté 50 ans auparavant, ou 60 ans auparavant. Voilà, ça, il y a un poids de ces mythologies et de ces ancrages dans nos conceptions. Donc, il s'agit bien d'une construction sociale, construire l'obscurité en tant que ressource nécessaire aux vivants humains et non humains, c'est bien une démarche de construction sociale d'un bien environnemental à part entière. C'est ça un petit peu qu'on va explorer. Ça, je passe, c'était l'autopromotion sur un article sur cette question des ressources pour ceux qui veulent creuser. Alors, je vais faire trois focus par grand thème, par ce que j'appelle les grands besoins d'obscurité. Premier besoin, les besoins socioculturels. Deuxième besoin, les besoins écologiques. Troisième grand besoin d'obscurité, les besoins sanitaires. Je les place dans cet ordre parce que il faut bien choisir un ordre. Et parce que c'est l'ordre chronologique d'émergence dans les débats publics et scientifiques. Les enjeux socioculturels de la préservation de l'obscurité, voilà, à tout seigneur, tout honneur, à l'Institut d'astrophysique de Paris, je ne pouvais pas passer à côté de la question du ciel étoilé. Je l'ai dit tout à l'heure, le ciel étoilé est le bien environnemental, hein, au sens d'objet environnemental, qui aura été saisi dans les années 1950, 1960, 70, par les astronomes professionnels puis amateurs, pour porter la problématique dans l'espace public. Rendez-nous les étoiles. Nous laissera-t-on un ciel à observer ? Voilà, ça, ce sont des verbatims de tracts produits à l'époque, à la main, par des associations d'astronomie. Voilà. Et c'est là que va intervenir dans les années 1970-1980, Jean Kovalevski, dont on a parlé tout à l'heure, quand il va faire un rapport à l'Académie des sciences sur, en 1992, sur l'ensemble des phénomènes environnementaux qui peuvent perturber l'observation astronomique pour les professionnels et les amateurs, parmi lesquels on va trouver la lumière artificielle. Ça devient un problème à considérer pour les astronomes. On trouvera aussi dans ce rapport la question de la pollution par les ondes électromagnétiques qui gênent l'observation radioastronomique. Mais, on en discutait tout à l'heure, en off, avant le démarrage de la conférence, c'est intéressant de voir que ce problème, qui est tout aussi prégnant pour l'astronomie professionnelle, est beaucoup moins porté auprès du public. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la lumière, ça se voit. Parce qu'un halo lumineux au-dessus d'une ville, suréclairée, ça se voit. Parce que l'astronomie optique est celle qui est pratiquée par les amateurs. Donc on peut aller chercher le grand public. La radioastronomie est pratiquée par quelques amateurs, sur le solaire, etc. Mais beaucoup moins, quand même. Voilà. Quand même beaucoup moins de... Enfin, la plupart des antennes satellites visent des satellites pour la réception de la télé. Hein. Ne visent pas, ne sont pas utilisées par des radioastronomes amateurs. Donc on voit comme ça qu'à un moment donné, il a mis les deux problèmes sur la table, et puis il y en a un qui l'a emporté, parce qu'il y en a un qui a un peu plus de capital sympathie et de capital pour aller faire coalition de cause avec du grand public. La lumière, ça se voit, la lumière, c'est quelque chose dont on a tous besoin, et en même temps, dont on aimerait bien se débarrasser quand on est astronome, quand on est amateur d'environnement nocturne, etc. Donc ça nous prend aux tripes, cette question de faut-il couper l'éclairage, faut-il le réduire, à quelle heure, etc. Bref. Le ciel étoilé pour se repérer. Donc l'apport du ciel étoilé, ce bien environnemental pour l'astronomie est prégnant. Je ne vais pas vous faire l'affront de redévelopper. Le ciel étoilé pour comprendre l'univers. Voilà. Donc sans accès visuel au ciel étoilé, on perd une porte d'entrée vers un objet scientifique. Donc une porte d'entrée vers tout un univers scientifique en tant que tel. J'ai mis une photo du pic du Midi, parce que j'aime bien les Pyrénées, étant à Toulouse, et puis une très très belle photo faite par Hubble des piliers de la création. Alors je suis désolé, je m'en excuse, et c'est très très mal. Toutes les photos, toutes les images ne sont pas créditées. Et en plus, ça sera diffusé et ça restera sur YouTube. Donc voilà, mea culpa, là c'est véritablement une erreur grossière de ma part. L'obscurité, au-delà de l'activité professionnelle des astronomes, voire l'activité des astronomes amateurs, qui parfois maintenant, vu leur outillage, est une activité quasi professionnelle. Quand je visite certains observatoires d'amateurs, aujourd'hui, avec des coupoles automatisées, etc., c'est assez bluffant. Mais l'obscurité, au-delà de ça, c'est pour tout un chacun une expérience renouvelée de rapport au monde. Aller faire un bivouac sous les étoiles, c'est une expérience en soi. Alors j'étais vendredi soir à faire un bivouac au bord d'un lac. On était en quasi pleine lune, c'est moins drôle, hein, dormir avec la pleine lune dans les yeux, mais voilà, on va chercher un autre rapport à l'environnement. On va chercher un rapport à l'environnement nocturne. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Alors, je suis désolé, ça fait un peu photo de vacances, cette diapositive, parce que j'ai des amis qui sont en photo, là, dans les Pyrénées. Mais ouvrez le compte Instagram du National Geographic. Ouvrez le compte Instagram des grands parcs nord-américains, des parcs nationaux nord-américains. Vous n'avez plus aujourd'hui un compte Instagram de territoire naturel, avec cette wilderness, cette naturalité forte, sans photographie nocturne. Hein, donc la qualité de l'environnement nocturne est aujourd'hui un marqueur prégnant pour les territoires d'une naturalité forte, quelque chose de plus en plus demandé. Voilà, vous êtes là au bord du lac d'Épise, dans un parc national français, le parc national des Cévennes. Pour ceux qui connaissent les astronomes amateurs, au bord du lac d'Épise, vous avez l'observatoire d'Épise de la Société astronomique de Montpellier, et vous avez ce magnifique ciel étoilé. Effectivement, c'est beau. Et effectivement, pour avoir accès à cette expérience de nature, il faut de l'obscurité. Alors, la notion de paysage nocturne, elle est saisie aujourd'hui par le droit sans être véritablement définie, mais ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ça pose question quand même, parce que le paysage nocturne n'est pas forcément obscur. Il y a même des paysages nocturnes urbains, je pense à Times Square, qui n'existent, qui ne font socialement paysage que parce qu'ils sont éclairés, voire suréclairés, de néons multicolores. Donc, quand le législateur parle de paysage nocturne, nocturne, c'est ce qui a lieu la nuit. Hein. C'est pas les paysages obscurs, forcément. Donc, il reste des petits flous à creuser comme ça dans le traitement de la pollution lumineuse, la saisie de la pollution lumineuse par le législateur. La question des paysages nocturnes en est un que l'on tente de creuser actuellement avec plusieurs territoires. Bref, on voit dans ce paysage nocturne une surabondance, enfin, ce que d'aucuns jugeraient une surabondance, d'éclairage. Il faut se méfier, ces photographies sont des photographies longue pause, très forte sensibilité, donc ça ne rend pas directement ce qu'on voit à l'œil nu. Ce sont des photographies qui suivent un protocole bien particulier pour travailler avec un territoire, un observatoire homme-milieu au sein de la vallée du Vic-de-Sceau en Ariège. Voilà. Ce qui est intéressant dans ces photos, on voit déjà qu'on a deux sources de pollution lumineuse assez différentes. On a des sources qu'on a en direct, visuellement, hein, cet éclairage blanc. Alors, ce n'est pas de la LED, c'est du vieil éclairage néon. Tube fluo des années 50-60. On est dans les Pyrénées, on est en Ariège et dans le Vic-de-Sceaux. L'éclairage n'est pas de dernière génération. Donc, très blanc. Et puis, à l'arrière-plan, à gauche de l'image, vous avez le halo d'agglomération généré par la ville d'Ozat. Petite ville, pas énorme. Je vous montrerai d'autres photos tout à l'heure. Donc, on voit déjà que là, on a une pollution lumineuse générée par plusieurs milliers de lampes sur une agglomération, et puis une pollution lumineuse à échelle beaucoup plus fine, une empreinte beaucoup plus restreinte, générée par quelques luminaires. Le traitement du problème, l'étude du problème pour l'écologue, par exemple, si on fait le deuxième focus sur les enjeux écologiques de la préservation de l'obscurité, l'étude du problème n'est pas si simple. Quels vont être les effets de la lumière qui provient du halo? Quels vont être les effets de la lumière qui provient en direct de tel luminaire à 50 mètres, etc., etc. Voilà. Donc c'est pour ça que la recherche sur les enjeux écologiques de la préservation de cette ressource obscurité va lentement. Mais qui va piano va sano. Hein, qui va lentement va sûrement, et ça avance. Le répertoire de connaissances scientifiques sur les effets délétères, sur les effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne sur la biodiversité, s'élargit, s'enrichit et s'élargit. On sait aujourd'hui qu'une très grande diversité taxonomique est impactée, j'aime pas ce terme d'impact, il vient du langage, du champ lexical de la balistique, ça ne me convient pas, mais je l'utilise quand même. Donc une très grande diversité taxonomique impactée, j'ai oublié les poissons, mais vous voyez, les oiseaux, les batraciens, les lépidoptères, le grand paon de nuit. Alors les oiseaux, par exemple, prenons des exemples concrets. Les oiseaux, pour certains qui nichent en ville, sous l'effet de l'éclairage artificiel, ils vont déplacer leur temps de vocalise. Ils vont se mettre à vocaliser plus tôt. Ils vont avoir l'impression que le jour se lève plus tôt. Voilà. Et donc ils vont déplacer leur vocalise, ils vont perdre en énergie à vocaliser plus longtemps, durant le matin, et toutes les pertes énergétiques pour des petits oiseaux, hein, les passereaux, les petits moineaux, etc., les songbirds, toute perte énergétique peut avoir des conséquences catastrophiques, notamment quand on sait que la femelle choisit le mâle sur la qualité de son chant. Le mâle, s'il est un peu trop fatigué d'avoir trop chanté ou d'avoir chanté trop tôt, la qualité de son chant est moins bonne, et donc le succès reproducteur de ce mâle sera moindre. Voilà. Et vous mettez comme ça de proche en proche, en péril, la population de telle ou telle espèce. Les batraciens, c'est un petit peu la même chose. Hein. Certaines espèces de batraciens s'arrêtent de chanter dès lors que le niveau lumineux est trop important. Voilà. Donc on met en péril la viabilité de certaines populations de batraciens en éclairant les cours d'eau, ce qui est aujourd'hui interdit par la loi pour l'installation des nouveaux éclairages ou la réfection des éclairages actuels. Voilà, c'est quelque chose qui a été intégré par le législateur, cette problématique de l'éclairage en direct des cours d'eau pour les poissons, pour les batraciens. Ça posait problème. Le grand paon de nuit, c'est les lépidoptères, a quasiment disparu de nos territoires. Ah, s'il y en a qui sont amateurs de pêche à la mouche, l'éphéméroptère, ils la connaissent, hein, la mouche de mai. La fameuse mouche de mai, dont vous faites l'imitation pour attraper les truites en début de saison. Ça, vous l'avez tous déjà vu, que ce soit dans votre ville, s'il y a un cours d'eau qui la traverse, ou dans votre jardin, sur d'autres types d'insectes. vous allumez une lumière au mois de juin, juillet, quand vous faites un barbecue ou quand vous faites une soirée entre amis au bord de l'eau ou dans votre jardin ou sur votre balcon, si vous n'avez pas de jardin, c'est des choses, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe ? Très rapidement, vous avez des insectes qui se mettent à tournoyer autour de cette source lumineuse. Ce sont des insectes qui, qu'on va dire photophiles, qui sont attirés irrémédiablement vers la lumière. Donc on comprend que si on allume une lampe dans leur milieu, qui naturellement est dépourvue de lumière artificielle, on va avoir ce qu'on appelle un effet vacuum cleaner effect, un effet aspirateur, et on va vidanger la biodiversité du milieu en insectes. Et on sait que l'insecte est la base de chaînes alimentaires bien plus larges. Donc, de proche en proche, comme ça, on a une diminution de la qualité, du niveau de biodiversité des milieux par introduction de lumière artificielle. Et puis d'autres espèces, par exemple les coléoptères, sont plutôt lucifuges, c'est-à-dire qu'ils fuient la lumière, et ça va être un petit peu la même chose. Vous introduisez de l'éclairage artificiel dans leur milieu naturel, qu'est-ce qui se passe? Ils désertent la niche écologique. Donc appauvrissement de la biodiversité par désertion de niche écologique. Donc dans les deux cas, que l'espèce animale soit lucifuge ou lucifile, vous appauvrissez le milieu d'un point de vue de la biodiversité. Les chiroptères, on va en reparler, c'est chauve-souris, c'est un petit peu plus compliqué. On a des effets qui peuvent paraître positifs de l'éclairage artificiel à échelle fine, mais qui, sur un temps long, sur un temps plus long, sont délétères. Vous voyez, c'est compliqué pour l'écologue de dire quelle échelle je prends. Et puis en fait, il faut qu'il travaille à plusieurs échelles parce qu'il y a des questions de composition des paysages, de diversité paysagère qui entrent en jeu. Là, nos collègues, voilà, des collègues du muséum comme Kevin Barré, Isabelle Leviol et Christian Kerbiriou travaillent fortement ces questions. Donc on a en France des chercheurs qui sont véritablement à la pointe sur ces questions-là. Donc, grande diversité taxonomique impactée, et puis les interactions. Je ne rentre pas dans les détails. Là, il y a des choses dans le bouquin et dans d'autres sources. En tout cas, il faut retenir que, du point de vue écologique, la lumière artificielle impacte l'abondance, la richesse des populations, le rythme, la phénologie des espèces, des individus, de veille-sommeil, par exemple. Les animaux ont eux aussi besoin de périodes pour se reposer, comme nous. Les mouvements, forcément, si vous êtes lucifile, lumifile, photophile, il y a plusieurs termes qui sont concurrents en fait, c'est pour ça que je bute à chaque fois. Si vous êtes photophile, que vous aimez la lumière, et qu'on vous installe des luminaires dans votre environnement, au lieu de partir par exemple pour chasser une espèce que vous aimez particulièrement bien dans cette direction, et si on vous met de la lumière là-bas, vous allez partir là-bas. Donc votre comportement de vol, votre territoire va être territoire d'activité, votre usage du territoire va être complètement perturbé et générer un appauvrissement. Donc des problématiques de comportement, typiquement, ça a été montré sur les oiseaux migrateurs, en termes de comportement de vol. On n'a plus du tout le même comportement quand on est pris dans des halos lumineux, des grands halos lumineux, des grandes villes. Donc là, pour les oiseaux migrateurs qui font des 3000, 4000, 5000 km, on comprend bien que ce n'est pas un luminaire qui pose problème. Sont les grandes conurbations urbaines, les grands ensembles urbains, comme la vallée du Rhône, qui est un axe de migration pour les oiseaux migrateurs, mais qui est très fortement éclairé, parce que très densément habité, très densément peuplé. Donc, commencez à voir poindre le problème. C'est que politiquement, l'acteur qui joue sur un ou deux luminaires dans sa commune, celui-là, on peut aller le toucher. Mais comment aller toucher les acteurs qui gèrent l'éclairage sur l'ensemble de la vallée du Rhône en période migratoire? Il n'y a pas une commune, il y a des milliers de communes à aller toucher. Parce que l'éclairage, c'est un pouvoir du maire, c'est lui qui a le bouton on-off entre les mains. Donc ça devient compliqué d'un point de vue politique, on en parlera tout à l'heure. Voilà, une image que j'ai réalisée en Aubrac, qui est un territoire avec lequel je travaille actuellement. Et on voit bien là l'effet de modification du comportement de vol de la lumière artificielle sur les chauves-souris. Vous avez en bas de l'image, en bas à gauche, la source lumineuse et des insectes attirés. Ici, voilà, ce sont des insectes lumifiles attirés par la lumière artificielle qui vont venir à force s'épuiser en tournoyant dans le faisceau. Soit ils s'épuisent et ils meurent d'épuisement, soit ils se font gober, manger par qui ? Par des chauves-souris qui vont venir, qui ont compris qu'en fait, dans ce faisceau de lumière artificielle, il y avait une manne de nourriture à prendre. Donc, ils vont venir tournoyer dans le faisceau. Là, on a l'impression que, finalement, à échelle très fine, bah, cette lumière artificielle, elle est bénéfique pour nos amis chauves-souris, pour certaines espèces de chauves-souris, puisqu'elles viennent manger. Et en fait, on se rend compte, sur le long terme, et là j'emprunte une diapositive de mon collègue Kevin, du CESCO, du muséum, on se rend compte sur le long terme qu'en fait, les effets sont délétères. Parce qu'on va faire concentrer les proies à un endroit donné, et donc voilà, créer des déséquilibres. Pareillement, on a une étude qu'on vient de faire à Toulouse et qui vient d'être publiée, où on montre, on a comparé au-dessus du canal du Midi, hein, qui est un corridor écologique en termes de déplacement pour les chauves-souris, on a comparé les ponts éclairés, les ponts non éclairés, voir quels effets sur les comportements de vol et de prédation des chauves-souris. Ben, on se rend compte qu'en fait, à proximité des ponts éclairés, les chauves-souris s'approchent moins. Hein, donc, quoi qu'il en soit, quel que soit le type d'éclairage, on a quand même tendance à rester en retrait. On s'approche moins. Par contre, quand on passe vers un pont éclairé pour chasser, pour profiter de l'éclairage peut-être qui a attiré les insectes, on y passe plus vite. Donc, perte énergétique en termes de vol, il faut voler plus vite. Pourquoi on y passe plus vite ? Parce qu'en fait, le risque de prédation, le risque d'être soi-même mangé par quelqu'un qui aimerait bien les chauves-souris, par une autre bête qui aimerait bien les chauves-souris, ça croît sous la lumière. Donc, vous voyez, c'est compliqué. De point de vue écologique, il faut être très très prudent sur les résultats de recherche, mais je passe. Je passe là-dessus. On va aller directement sur les questions sanitaires, parce que le temps avance et je parle toujours beaucoup trop. Les enjeux sanitaires de la préservation de l'obscurité. Ben, en fait, voilà, s'il y a des tas de mammifères qui sont impactés par l'éclairage artificiel, il n'y a aucune raison que nous, mammifères, ne le soyons pas non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous ? Il faut faire un petit détour par ce qu'on appelle la chronobiologie, qui est un champ scientifique relativement récent. Vous connaissez certainement Michel Siffre. Vous avez peut-être lu ses ouvrages, quasiment des ouvrages d'aventure, hein, l'aventure des spéléonautes. Michel Siffre, spéléologue, avait l'habitude de descendre dans des gouffres. Et puis, à un moment donné, il s'est dit, bah, tiens, je vais rester un petit peu plus longtemps dans un gouffre. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et je vais m'y descendre dans ce gouffre sans informations sur le temps qui passe à l'extérieur du gouffre. Il avait une ligne téléphonique directe, filaire. Donc, il était en contact avec l'extérieur, mais l'extérieur, quand il était en contact, quand il s'appelait, ne lui donnait pas d'informations sur l'heure qu'il était, la date qu'il était, et lui n'en demandait pas. Lui, il disait juste, voilà, pour moi, je pense qu'il était l'heure, je suis parti me coucher, je pense qu'on était le jour. Et en fait, on s'est aperçu comme ça, au bout d'un moment, quand il est sorti, sa perception du temps avait été complètement décalée par rapport à la réalité en surface. C'est-à-dire que ça, il est sorti au bout d'un mois et demi, et il avait l'impression, enfin, il y avait 15 jours de décalage entre la date à laquelle il pensait être et la date à laquelle, enfin, la date qu'il était vraiment, véritablement. Donc en fait, ça a montré cette expérience, ce qu'on appelle cette expérience hors du temps, ou en libre cours, hein, c'est-à-dire qu'il a suivi un rythme en libre cours. Il n'y avait plus de synchronisation par l'alternance lumière-obscurité, il était dans un gouffre, pas de lumière du jour, donc l'obscurité en permanence, il avait juste ses lampes qu'il allumait, qu'il éteignait quand il voulait, et pas d'informations sociales, hein, pas de marqueurs sociaux, pas d'horaire de travail, pas de réveil qui sonne, pas d'horaire de repas pris en commun avec d'autres personnes, voilà, pas de marqueurs sociaux, pas d'informations sur le temps qui passait, et ça a montré qu'en fait, on avait une horloge biologique interne, mais qui avait tendance à se caler sur un cycle de 25 heures et pas de 24 heures. Voilà. Donc, ça a montré indirectement qu'on a besoin de l'alternance naturelle entre lumière et obscurité, durant le jour et la nuit, pour resynchroniser notre horloge. C'est-à-dire, on dit que le régime naturel de luminosité est le premier donneur de temps pour notre horloge biologique. On a besoin de donneurs de temps extérieurs, exogènes. On a des donneurs de temps endogènes, Et puis, on a des donneurs de temps sociaux, mais dont l'influence est beaucoup est bien moindre, hein, je vous le disais tout à l'heure, c'est les horaires de travail, les horaires de repas, etc. Mais le premier synchroniseur pour notre horloge biologique, c'est cette alternance naturelle entre lumière et obscurité. Donc vous comprenez dès lors, je passe, vous comprenez dès lors que, avec notre éclairage artificiel à l'extérieur des villes, mais aussi, et peut-être avant tout, avec cet éclairage de cet écran, cet éclairage de cet écran. J'en ai d'autres. Hein. Voilà, on peut sortir des tablettes. Aujourd'hui, on a, je ne sais plus en moyenne combien il y a d'écrans par foyer. Et ça, ce sont des écrans qu'on emmène dans la chambre. L'ordinateur, bon, peut-être pas. Mais ces écrans-là, on les emmène dans la chambre. On les consulte juste avant de s'endormir. On les consulte juste en se réveillant. Puis le moindre réveil au milieu de la nuit, on vérifie qu'on n'a pas de message. On regarde l'heure. Et puis, c'est plusieurs dizaines, centaines de lux. L'unité de l'intensité lumineuse, l'unité d'éclairement plus précisément, que l'on prend dans les yeux à chaque fois. Et en plus, on est sur des écrans rétroéclairés par LED, c'est une lumière très très bleue, donc les médecins nous disent que c'est très mauvais. Je ne rentre pas dans les détails, mais la lumière bleue, plus énergétique, perturbe plus, dérégule plus notre horloge biologique. Donc, voilà. La question de la pollution lumineuse pour le médecin, ça n'est pas seulement l'éclairage public, ça n'est pas seulement l'éclairage urbain. La pollution lumineuse, vous l'avez dans votre poche. Ça fait un peu peur. Alors, bon, l'autre pollution, je reviendrai sur les effets après, l'autre type de pollution lumineuse, celle-là, est dénoncée très tôt par les mouvements associatifs de préservation de l'environnement nocturne et de protection de l'obscurité. De lutte contre la protection du ciel nocturne et de l'obscurité, c'est cette lumière intrusive. Là, c'est l'éclairage extérieur généré par l'éclairage urbain, public, privé, il n'y a pas seulement de l'éclairage public dans nos villes, et qui va rentrer chez vous. Voilà, intrusif. Parce que vous n'avez pas de volets. Parce que vous n'aimez pas dormir les volets complètement fermés, complètement dans le noir. Voilà. Et là, la recherche, au début, on se disait, bon, ce sont des niveaux lumineux très faibles, quelques lux dans une chambre. 2, 3, 4, 5, 6 lux. Et en fait, on a des équipes de recherche en France, à l'INSERM notamment, je pense à Claude Gronfier et ses collègues à l'INSERM, s'il y a des vidéos à aller regarder sur la question sanitaire, s'il y a un chercheur en France à suivre sur cette question-là, c'est Claude Gronfier, excellent pédagogue. Ces études montrent que même à 2, 3 lux, on a des effets sur la sécrétion de la mélatonine, celle que l'on appelle l'hormone de la nuit. On l'appelle à tort l'hormone du sommeil. On pense que quand on sécrète la mélatonine, hop, on s'endort. Non, c'est pas tout à fait ça. La sécrétion de la mélatonine en début de soirée, parce que notre œil reçoit le signal « il fait nuit », envoie le signal « il fait nuit » à notre cerveau, le cerveau dit au noyau suprachiasmatique, hop, déclenche la sécrétion de la mélatonine. Cette sécrétion de mélatonine, on dit qu'elle ouvre les portes du sommeil, c'est-à-dire qu'elle crée physiologiquement les conditions d'un bon endormissement. La sécrétion de cette mélatonine, elle commence à quelle heure? 21h, 22h. C'est le coup de barre du début de soirée. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6 lux dans une chambre à coucher suffisent à inhiber 50% de la sécrétion de cette mélatonine. Donc là où on pensait qu'il n'y avait que des effets dus à cet éclairage intensif des smartphones, ou des personnes qui travaillent en 3-8 avec des éclairages de bureau, les personnes postées, les infirmières, etc., les infirmiers, et bien en fait, on se rend compte que même des éclairements de faible intensité ont des effets sanitaires. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les effets. Voilà, il y a des problèmes, on a des problèmes sur des pertes de concentration, des pertes de mémoire, pertes de capacité de mémoire, des effets sur le développement de comportements dépressifs, des effets sur la vision, sur la cataracte, et puis des effets pressentis, actuellement analysés, ça fait partie des choses qui restent à solidifier sur la lumière artificielle en tant que facilitateur de l'apparition de certains cancers, ce qu'on appelait la carcinogénèse, l'apparition de cancer du sein ou de cancer de la prostate chez la femme ou chez l'homme. Beaucoup d'études ont montré des covariations dans l'espace, mais bon, covariation n'est pas causalité, corrélation n'est pas causalité. Ceux qui ont fait des stats le savent très bien, c'est quelque chose qu'on nous répète. Donc, méfiat, comme on dit dans le sud-ouest en Occitan. Des pistes de recherche qui restent à creuser. Alors, on voit bien qu'on a des effets multifacettes de la lumière artificielle. Ça veut dire qu'en regard, l'obscurité fait ressource d'un point de vue écologique, d'un point de vue socioculturel et même d'un point de vue santé. Et la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé, je vous le rappelle, ne concerne pas seulement le fait de ne pas avoir développé de maladie ou de ne pas être infecté. La définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé inclut la notion de bien-être, inclut la notion d'environnement, de qualité environnementale. Et donc, tout ça, ça veut dire quoi? Ciel étoilé, biodiversité, bien-être, qui peut, dans les territoires, être particulièrement sensible à ça? Eh bien, les aires protégées. On a aujourd'hui une très forte saisie de la lutte contre la pollution lumineuse, de la préservation de la ressource obscurité, par le réseau d'aires protégées. Je vais aller très très vite. Déjà, le réseau d'aires protégées, ça l'intéresse parce que cette pollution, c'est une pollution archétypique de l'Anthropocène. Cette image à gauche, où toutes ces dérivées, vous la connaissez tous. C'est devenu une icône environnementale. S'il y a une pollution visible depuis l'espace, qui parle, qui est en plus, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même un peu une pollution de pays riches. Donc ça, en plus, permet de mettre un discours sur les inégalités environnementales, les inégalités d'accès à l'énergie, les inégalités entre pays des Nord et pays des Sud. Voilà, c'est la pollution lumineuse. Pollution archétypique de l'Anthropocène, et vous voyez, c'est saisi jusque dans des couverture de bouquins, de magazines sur cette problématique, et de revues sur cette problématique de l'Anthropocène. Voilà, vous connaissez tous ces images, faites par Thomas Pesquet ou ses collègues depuis la Station Spatiale Internationale. Toutes les villes, même tous les services communication des villes, demandent aux astronautes présents dans l'ISS de faire la photo de leur ville la nuit pour montrer qu'elle rayonne. Hein, on voit que la pollution lumineuse, c'est une histoire de rayonnement. Alors pour les acteurs urbains, c'est la lumière, c'est du rayonnement en termes d'image, de marketing urbain. Pour les astronomes ou pour les défenseurs de l'environnement, c'est du rayonnement électromagnétique qui part dans l'environnement et qui génère une nuisance, une pollution. Voilà, là vous êtes... hop, je vais revenir. Pour dire vous êtes ici, comme dirait l'autre. Voilà. Hein, donc là, vous avez la Bretagne au premier plan. Paris, la région parisienne, le Benelux, très fortement éclairé, une urbanisation très diffuse. Vous avez ici, vous avez Londres, là je sais qu'on a quelqu'un qui nous écoute actuellement sur le streaming. Voilà, donc quelque chose qui est représentatif de l'Anthropocène. Le réseau d'aires protégées se devait de réagir. D'autant plus que nos aires protégées, ça c'est des choses qui ont été montrées par des collègues de Nantes, Adrien Guettet notamment, et ses collègues, Laurent Godet, etc., biogéographes, qui ont montré, à partir des images satellitaires, qu'en fait, en bordure d'aires protégées et de hotspots de biodiversité, là, vous avez une concentration de la population qui fait que les aires protégées et les hotspots de biodiversité sont véritablement, littéralement, enserrés par des anneaux de pollution lumineuse. Alors j'ai pris un exemple archétypique pour être un peu violent. Forcément, on est sur une île, la Réunion, donc vous allez me dire forcément, la lumière vient se mettre autour. Mais c'est génial. Enfin, c'est génial. J'espère que Jean-Philippe Delorme, le directeur du Parc National, ne regardera pas la vidéo, mais pour nous, c'est vraiment archétypique. C'est ça que je voulais dire quand je dis c'est génial. Vous avez un parc national, zone de production très forte, qui effectivement, sur son territoire, n'émet pas spécialement de lumière. Hein, les parcs nationaux, notamment les zones cœur, ne sont pas habités. La Réunion, c'est un petit peu particulier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez que quand on cartographie la pression lumineuse sur l'air protégé, zone cœur, mais surtout zone d'adhésion, alors ça, il faut le savoir, hein, dans les parcs nationaux, c'est une protection centre-périphérie, il y a une zone cœur et une aire d'adhésion. La protection très forte, c'est dans la zone cœur. L'aire d'adhésion, c'est... il n'y a pas de pouvoir de police environnementale, etc. Mais on voit là que le parc national de la Réunion est grignoté par la lumière, par ses franges. Donc, ce problème l'intéresse. Or, problème, le parc national de la Réunion, il a des compétences sur son périmètre, mais il n'a pas de compétences sur l'éclairage des communes qui sont autour. voyez là, la question, c'est la question d'une pollution diffuse. Donc les limites des aires protégées, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas quand en plus, vous avez en Allemagne, ici, ou dans le Benelux, des petits bouts d'air protégé un petit peu partout, qui vont se glisser au milieu d'une urbanisation qui, elle aussi, est très diffuse et un petit peu partout. A l'inverse, vous êtes en Espagne, le modèle urbanistique est plutôt un modèle concentré. Vous avez des grosses taches lumineuses qui génèrent de la pression sur les aires protégées, mais vous voyez qu'il y a des aires protégées. Déjà, la forme des aires protégées est beaucoup moins morcelée et l'urbanisation est beaucoup moins diffuse. Donc vous voyez qu'on comprend là aussi un des gros problèmes, un des enjeux pour les territoires, c'est de comprendre la morphologie du territoire, la morphologie des émissions de lumière artificielle, et le traitement ne va pas être du tout la même chose. Comment faire la préservation en Allemagne ou dans le Benelux ? Ça ne va pas être la même chose qu'en Espagne. En France, on est dans une situation un petit peu intermédiaire. Je passe très très vite. Ce que se sont dit les territoires, c'est pour lutter contre la pollution lumineuse, il faut peut-être que je passe par la valorisation de la ressource obscurité. C'est-à-dire qu'il faut que j'active la valeur. Un bien, il n'a de valeur pour un territoire qu'à partir du moment où ce qu'on appelle un système d'acteurs va se mettre en place pour dire l'obscurité, ça nous intéresse parce que c'est un potentiel pour notre territoire, il faut le valoriser, il faut le mettre en avant. Et si on montre aux élus que par la préservation de l'obscurité, on peut générer du tourisme, on peut générer de nouvelles activités, de nouveaux segments touristiques, d'astrotourisme, etc., d'observation naturaliste, de randonnée à l'écoute de la faune nocturne, eh bien les élus vont considérer autrement la lumière artificielle, le couple lumière-obscurité. Voilà. L'obscurité va prendre de la valeur, va être valorisée en tant que ressource, et l'éclairage artificiel va être renforcé dans sa requalification en pollution. Voilà. Et donc on va réfléchir un petit peu à deux fois avant de trop éclairer. Alors, une mise en protection de l'obscurité qui va puiser dans les fondements de la wilderness, je vais aller très très vite, et je renverrai à mon bouquin là-dessus, mais voilà, vous voyez cette image, ça c'est une affiche, toute une campagne nord-américaine lancée par les parcs nationaux nord-américains sur Half the park is after dark. La moitié du parc est après la tombée du jour. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient valorisé touristiquement leur parc de façon diurne, la journée, et qu'ils étaient passés à côté, économiquement, d'une manne énorme, qui est la moitié du temps, qui est la nuit. Et on a fait toute une campagne, et vous voyez, le vieux monsieur avec un chapeau ici, c'est John Muir. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la pensée environnementale le connaissent. Il est là, avec Roosevelt sur Glacier Point, dans le parc national de Yosemite. Et vous voyez que l'imaginaire du Yosemite est repris très fortement avec la présence de Muir. Donc on va chercher l'obscurité dans les parcs, c'est la wilderness. C'est cette naturalité forte. Voilà. C'est ça la mise en ressources. Quand on dit mise en ressources, c'est une intention, c'est quelque chose qui est délibéré, c'est quelque chose qui est pensé, jusqu'en termes de communication. En France, vous avez une réserve internationale de ciel étoilé, zonage, nouveau type de zonage de protection de l'environnement. On met les étoiles dans des réserves. Ah ben là, on ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On projette la protection au sol. On peut pas préserver le ciel dans l'espace. Compliqué, le ciel, il est toujours perçu par l'homme depuis le sol, mais on va projeter cette protection. Et donc, vous avez comme ça, lancé par l'International Dark Sky Association, l'association pour la préservation du ciel sombre nord-américaine, un nouveau label, Réserve internationale de ciel étoilé, qui arrive dans les labels de préservation de l'environnement. Voilà, on fera une communication avec mes collègues du collectif Renoir en fin septembre aux Archives nationales sur cette question-là, la construction d'un nouveau front pionnier pour la préservation de l'environnement via la préservation du ciel nocturne. Je passerai rapidement, on y reviendra certainement dans les discussions. Ce label de préservation, Réserve internationale de ciel étoilé, il est effectif. Effectivement, le ciel du pic du Midi est à préserver. Ce label, il dit quoi ? Il dit aux communes, aux communautés de communes qui entourent le pic du Midi, organisez-vous, promouvez la qualité de votre obscurité et faites des efforts sur la qualité de l'éclairage. N'éclairez pas trop, éteignez les lumières en milieu de nuit, votre éclairage public. N'installez pas des intensités lumineuses phénoménales. Réduisez la température de couleur. Allez vers du 2000, 2300, 2000, 1700 degrés Kelvin pour votre éclairage public, parce qu'on sait que ça se diffuse moins dans l'atmosphère et qu'en plus, du point de vue biodiversité, on a moins d'impact de ce type. Voilà. Donc, des territoires qui s'organisent pour prendre ensemble des règles communes, des façons de faire du point de vue technique, etc. Et puis, des territoires qui valorisent. Qui valorisent à tel point que c'est un nouveau segment touristique. Alors là, pour le parc, c'est ancré dans une histoire longue. L'activité scientifique au sommet du Pic du Midi était un petit peu en déclin, donc il fallait sauver le pic. Il y avait un sénateur, François Fortassin, qui avait un peu de poids, un peu de le bagout pour aller défendre le dossier à Paris pour sauver le Pic du Midi. Le sauvetage du Pic du Midi est passé par la mise en tourisme. Alors ça a été d'abord le VTT de descente, le ski freeride en hiver, et puis c'est maintenant un nouveau segment touristique, la nuit, l'observation des étoiles. Ah, ça a un prix, hein, 493 € la nuit. Voilà. Bon, pour ce prix-là, vous avez la restauration le soir, le matin, vous avez l'ambiance d'une plateforme scientifique, hein, avec tous ces télescopes que vous connaissez bien, que vous connaissez bien mieux que moi. Voilà. Donc, une immersion. Tout ça fait partie de cette nouvelle vague du tourisme expérientiel. Le nocturne est un nouveau segment du tourisme expérientiel. Je passe très rapidement, parce que je développe ça dans un article fait avec un collègue économiste, dans les ateliers d'anthropologie, avec plein d'exemples, et puis une approche un peu plus critique, un peu plus acerbe. C'est notre rôle de chercheur aussi, de parfois être un peu piquant. Mais cette valorisation de l'obscurité, là, on parle bien de valorisation marchande. Hein, quand on propose 439 € la nuit, c'est pas des valeurs culturelles, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Il y a une véritable mise en concurrence des territoires. Le label, tout label territorial, tout label de qualité, que ce soit de la qualité des fromages, des vins avec les AOC, les AOP, etc., ou des labels de qualité environnementale avec les réserves internationales de ciel étoilé, se base sur le dogme de la concurrence. Il faut décrocher le label, c'est le superlatif. Hein. Alors voilà, vous serez des VIP, vous serez sur la première réserve internationale de ciel étoilé de France et d'Europe, le plus haut sommet, le plus haut planétarium. Donc on est bien sur des logiques de mise en concurrence territoriale. Je passe. Il y a d'autres formes de préservation de l'obscurité, je vais terminer par ici, qui sont moins utilitaristes, plus à destination des enjeux de biodiversité. Et ce sont des formes qui commencent à arriver dans l'action publique et qui s'inspirent de la préservation classique de l'environnement, et notamment de la préservation de l'environnement par la mise en œuvre de réseaux écologiques. Il y avait des réseaux écologiques, trame verte et bleue pour ceux qui s'intéressent aux questions environnementales, pour les questions de fragmentation des habitats diurnes par les routes, par les voies ferrées, etc. Eh bien, on a l'idée de faire un réseau écologique sombre, parce qu'en fait, la lumière artificielle fragmente les habitats des espèces animales. Hein, qu'elles soient photophiles ou photophobes, quand vous vous retrouvez piégé ou que vous fuyez des lampadaires, ben, vous pouvez pas, vous n'êtes pas libre de circuler. Voilà. Donc, l'idée de développer un réseau écologique sombre, voilà, concept scientifique, encore en cours de conceptualisation. Là, on a une publie collective avec plusieurs collègues écologues et géographes et politistes qui est en cours d'analyse par la revue Ecology and Society. On verra si le concept scientifiquement tient la route. Et en termes d'action publique, sa traduction, c'est la fameuse trame noire qui est en train d'arriver dans les territoires. Et on a aujourd'hui des territoires à très large échelle. Hein. Par exemple, l'interparc du Massif Central qui regroupe quasiment une dizaine de parcs naturels, dont le parc national des Cévennes dans le Massif Central, se penche aujourd'hui sur cette problématique et se dit, ben, plutôt que de partir chacun dans notre coin, là, avec notre action, moi dans le Pilat, moi dans le Livradois-Forez, moi dans le Morvan, moi dans le Quercy, moi dans le PNR de Millevaches, et de faire des actions disparates, essayons de coordonner, de penser la préservation en réseau. Tout en pensant, tout en sachant très bien que le rapport des habitants de ce territoire Millevaches à l'obscurité n'est peut-être pas culturellement, socialement, le rapport des habitants du parc naturel régional du Pilat à l'obscurité. Donc on essaye de travailler avec eux dans cet accompagnement, de coordonner l'action, la territorialisation de la préservation de l'obscurité, tout en tenant compte des spécificités locales. C'est là que le géographe aime cette problématique, et toutes les problématiques où il y a des spécificités locales, il aime. Là où ce n'est pas partout la même chose, le géographe est là pour intervenir et ça l'intéresse. Donc voilà, c'est en ce sens qu'on travaille sur un réseau écologique sombre et d'autres territoires travaillent de la même façon sur cette question-là, y compris en milieu urbain. Puisque vous comprenez bien que cette logique de réseau, son enjeu, c'est de dire ben, on ne va plus seulement préserver l'obscurité dans des poches, des réserves internationales de ciel étoilé, qui sont souvent calquées sur les aires protégées classiques, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, mais on va, grâce au réseau, essayer de s'extraire, d'extraire la préservation de l'obscurité de ces seules aires protégées et de l'emmener, y compris dans des espaces urbains, voire périurbains, où on va réfléchir à défragmenter, c'est une simulation que j'avais faite, c'est pas une image réelle, on va réfléchir à défragmenter l'espace qui auparavant pouvait être, enfin l'habitat, les habitats, qui auparavant pouvaient être fragmentés par nos usages de lumière artificielle. Voilà, donc simplement, il faut bien penser. L'enjeu face à nous, et ce sera pour la discussion que je garderai ça, c'est que tout le monde ne conçoit pas, tout le monde n'a pas le même rapport à l'obscurité. Alors qui détient la vérité sur l'obscurité? Est-ce que c'est l'astronome? Est-ce que c'est l'écologue? Est-ce que c'est le médecin chronobiologiste? Est-ce que c'est l'habitant? Est-ce que c'est la petite vieille qui a peur en sortant le soir, qui a peur de se casser la figure dans certains territoires avec lesquels on travaille? Qui a plus raison que les autres? Aucun, personne. Ou en tout cas, tout le monde a raison. Donc tout l'enjeu, c'est d'accepter qu'il y a une pluralité de rapports expérientiels à l'obscurité, mais que cette pluralité de rapports, il faut la faire émerger dans le débat. Jusqu'à présent, le seul rapport à l'obscurité qu'on avait, c'était la question de la sécurité, la question des économies budgétaires et d'énergie, et puis ça s'arrêtait là. Non, maintenant, il faut faire entrer la question des non-humains, de la biodiversité, la question de la santé. Parce qu'on parle de sécurité des biens et des personnes, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale, ça vaut aussi. Donc voilà, autant de questions qu'il faut faire arriver dans le débat, mais on comprend que d'un territoire à l'autre, vous voyez, les rapports à l'obscurité ne sont pas les mêmes. Quand on a grandi à Saint-Étienne, comme deux photos avant, ben on a l'habitude d'avoir de l'éclairage artificiel. Quand on a grandi dans les Pyrénées, ou dans la zone cœur de la réserve de ciel étoilé, forcément, et qu'on est là depuis gamin et qu'on sait qu'un ciel étoilé, c'est un beau spectacle, on n'a pas le même rapport au couple lumière-obscurité. Voilà, donc je m'arrêterai là, je vous remercie. Et juste... Voilà, terminer peut-être sur cette citation, il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir, parce qu'en fait tout l'enjeu il est là. Le savoir scientifique sur ces questions de pollution lumineuse, de préservation de l'obscurité, il n'est pas stabilisé, et il ne le sera jamais. Un savoir scientifique n'est jamais stabilisé, ou alors il est mort, ça s'éteint. La thématique s'éteint, et c'est fait. Sauf que politiquement, il faut agir dans un monde incertain. Et c'est là où les territoires ont besoin d'accompagnement, des scientifiques et des citoyens pour leur donner leur avis sur ce couple lumière-obscurité et ces rapports différenciés que chacun de nous entretient avec ces objets un petit peu... voilà, on a pris dans nos contradictions. On aime l'obscurité, mais en même temps, on est rassuré par la lumière. Ça, c'est quelque chose de bien humain. Merci.
Bien, merci. Je pense qu'on va tous applaudir, là. Il y a des applaudissements. Je pense que... Merci, hein. Je pense que les applaudissements viennent d'Internet, mais on les entend pas, c'est comme ça. Voilà, et il y a eu beaucoup de réactions. Je vais peut-être demander à quelques personnes qui sont ici s'il y a des questions immédiates. Pas de questions tout de suite, voilà, ils ont tout assimilé. Mais il y a des questions qui viennent d'Internet. En particulier, alors, je les ai listées, peut-être la question la plus prégnante... Avait trait aux enjeux politiques. Dans le fond, est-ce que les pouvoirs publics font les efforts nécessaires? À qui s'adressent-ils? Qui veulent-ils effectivement préserver, protéger? Est-ce que ce sont des enjeux commerciaux qui priment? Est-ce que ce sont des enjeux sanitaires? Est-ce que c'est des problèmes de sécurité? Et voilà, comment... En fond, vous n'avez pas beaucoup parlé de ces enjeux politiques un petit peu, mais je crois qu'il y a pas mal de questions qui ont trait à ça.
Alors effectivement, j'ai en fait les enjeux politiques qui sont sous-jacents derrière tout chaque diapositive. Ça dépend ce qu'on entend par politique, mais c'est vrai que j'ai tendance à prendre l'acception large de la politique. Mais effectivement, là, on est plus sur des enjeux d'action territoriale. Alors, les pouvoirs publics se saisissent de la problématique, clairement. Pour refaire un petit peu l'historique, la problématique arrive, est mise à l'agenda politique, comme on dit, au moment du Grenelle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle n'arrive pas par l'enjeu de préservation du ciel étoilé. Hein, le Grenelle, c'était le Grenelle environnement, la question, c'était la biodiversité. D'ailleurs, l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne a, juste avant le Grenelle, changé de nom. Donc c'est vraiment l'association qui, au niveau national, a pour mission, se donne pour mission exclusive de préserver et de porter cette problématique auprès des élus, auprès des pouvoirs publics. Elle a changé de nom avant le Grenelle pour devenir Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Pour dire en fait, ça n'est pas seulement un problème d'astronome. Elle a été taxée un petit peu de défense d'un précaré jusqu'à présent. Donc, bon, c'est passé. Le problème a été... la NPCEN a pu adhérer à France Nature Environnement. France Nature Environnement a dit « D'accord, on va porter pour vous le problème à la table des négociations du Grenelle ». Et la notion de nuisance lumineuse, et non pas de pollution lumineuse, a fait son apparition en 2011 dans le Code de l'environnement. Donc, il y a une saisie par le droit. Mais le fait qu'il y ait texte de loi ne veut pas dire qu'il y a mécaniquement action. Mais en tout cas, ça infuse dans différents textes de loi. Ça, en 2015, ça infuse dans la loi énergie, transition énergétique. Donc le problème est saisi par les questions énergétiques. En 2016, loi biodiversité et reconquête des paysages. La notion de paysage nocturne arrive dans la loi. Et puis, décembre 2018, les décrets d'application du Grenelle. Donc là, voilà, des textes qui disent maintenant, tout éclairage à partir du 1er janvier 2020, tout nouvel éclairage installé devra respecter telle et telle norme, s'il est installé en centre-ville, s'il est installé dans tel type de quartier, s'il est installé pour éclairer un parking de zone commerciale. Puis il y avait la question de l'extinction des enseignes lumineuses en 2013, l'arrêté bateau. Donc on voit, en tout cas politiquement, il y a un droit de l'éclairage qui est en train de se renforcer pour limiter les intensités d'éclairage, pour encadrer les horaires d'allumage et d'extinction, pour limiter les températures de couleur, etc. Mais ça ne fait pas un droit de la protection de l'obscurité. Voilà, donc l'arbitrage politique, maintenant, il est entre les mains des élus. Si vous voulez, est-ce que les politiques font assez ? C'est pas à moi de distribuer les bons et les mauvais points. Les politiques, ils sont des fois en dehors des clous du droit, notamment sur la mise en application et puis la vérification. Je pense à l'arrêté bateau de juillet 2013 qui oblige normalement les magasins à éteindre les enseignes et à éteindre les vitrines en milieu de nuit. C'est pas toujours respecté. La NPCEN a bien fait son travail là-bas en montrant que c'était très peu respecté. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de territoires aussi qui font avec les moyens du bord. Voilà. Et l'élu, le maire, premier édile, il n'est pas spécialiste de tout. Donc, il n'est pas spécialiste et de l'éclairage public, et des normes sur le gazon du terrain de foot, et des normes sur les cages de handball dans le gymnase, etc. Donc, en fait, ce qui se passe dans beaucoup de territoires, notamment les territoires ruraux, qui intéressent les astronomes, c'est là qu'ils vont venir planter leur télescope pour observer, le maire délègue la compétence de l'éclairage public à un syndicat départemental d'énergie, qui était à l'origine un syndicat départemental d'électrification, et c'est lui qui gère. Donc en fait, s'il y a un acteur nodal à aller toucher dans les territoires aujourd'hui, ce sont les syndicats départementaux d'énergie. Parce qu'en fait, c'est eux qui font un petit peu la doctrine d'éclairage pour nombre de communes rurales du département. Dans les grandes villes, ce sont les services techniques de l'éclairage. Mais il ne faut pas oublier, et ça, pour en avoir beaucoup discuté avec Joël Laverne, qui est responsable du service éclairage public de la ville de Toulouse, il me dit, bon, Samuel, tes trucs là de biodiversité, de santé, etc., ben oui, je sais, j'en ai bien conscience. Mais, moi, si j'ai une chose à te rappeler, c'est que l'éclairage public, c'est avant tout une commande politique. Et donc, tant que le politique ne mettra pas dans la balance les besoins d'obscurité, pour les questions sanitaires, pour les questions de biodiversité, etc., restera dans la balance, restera primordiale et prégnante dans la balance, resteront, pardon, les questions de sécurité, les questions de marketing urbain. Il ne faut pas oublier que l'éclairage, ça met en valeur les bâtiments de la ville, notamment les hypercentres, à une heure où à une période où les villes ont besoin d'attirer des touristes. Ça, c'est des choses que j'explique
d'accord,
un petit peu dans
le bouquin.
D'accord,
mais vous avez en même temps des pressions quand même qui sont faites sur les politiques en provenance de toutes sortes d'instances. Par exemple, le tourisme, effectivement, est de plus en plus concerné. Mmh. Il y a par exemple l'Association française d'astronomie est assez active pour essayer de sensibiliser les communes pour avoir le moins de pollution lumineuse. On distribue même d'ailleurs des labels.
Ville et village étoilé. Ouais.
Voilà, village étoilé. Alors, évidemment, c'est une petite goutte d'eau, mais enfin, ça va dans ce sens-là. Donc, et quand vous parlez du pic du Midi, c'est vrai que le pic du Midi, on a l'impression à vous entendre que bon, ils ont commercialisé le site. C'est pas tout à fait quand même ça, parce que il y a aussi l'attrait que peuvent avoir les touristes de voir ce qu'est un endroit où on a observé le ciel, indépendamment du fait qu'effectivement on y voit des étoiles plus qu'ailleurs. D'abord, pas forcément plus qu'ailleurs, parce qu'il y a énormément de sites quand même en France où on voit très bien les étoiles. Hein. C'est pas la peine de prendre le téléphérique pour ça. Mais donc on n'est pas obligé de payer pour voir des nuits obscures. Si on paye au pic du Midi, c'est pour des raisons beaucoup plus compliquées que ça. Ouais. Comme une prestation qui est
la valorisation de l'obscurité peut être inscrite dans une démarche non marchande, non utilitariste, voilà, et notamment par la mise en place du réseau écologique sombre, de la trame noire, parce que là, on est véritablement dans une démarche qui est non utilitariste du point de vue monétaire, du point de vue valeur monétaire.
Il y avait d'autres questions, je ne voulais pas vous interrompre, il y a quelques questions qui me semblent intéressantes. En ce qui concerne Starlink, j'ai vu des questions arriver autour de Starlink, et en particulier de l'efficacité de ce qu'on appelle le système VisorSat. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez une...
Alors, ma connaissance technique ne va pas jusque-là. Non, juste la question de Starlink, c'est effectivement intéressant. Je l'aborde dès l'introduction de mon bouquin, parce qu'au moment où je l'ai écrit, effectivement, les premiers lancements des premiers trains de satellites étaient en train de se faire. Effectivement, l'idéal, International Dark Sky Association, le dit bien, on a lutté pendant des années jusqu'à présent contre une pollution lumineuse qui venait du sol, et il faut maintenant qu'on se mette à lutter contre une autre forme de pollution lumineuse, qui sont les reflets du soleil sur chacun de ces petits satellites qui, à terme, seront plusieurs dizaines de milliers. Effectivement, là aussi, on est sur une question d'appauvrissement de l'expérience de nature et d'appauvrissement de la capacité de chacun d'entre nous à s'émerveiller devant un ciel étoilé. Est-ce que dans 10 ans, le seul émerveillement qu'on aura quand on lèvera la tête, les yeux vers le ciel, ce sera de dire... Oh, tiens, il y a telle constellation Starlink qui passe, ou telle constellation si c'est pas Musk, ce sera un autre. Voilà, donc se pose la question du rapport marchand au ciel. Mais là, c'est un autre sujet. On est plus dans des problématiques de droit de l'espace, de droit aérospatial, avec des vides. Clairement, le droit aérospatial date de la guerre froide, hein, des années 60. Où on a régi les droits de propriété, etc. L'impossibilité de s'approprier la Lune, parce que en gros, l'enjeu était... que les Russes ne s'approprient pas la Lune avant les États-Unis, etc., etc. Mais les droits des différentes nations ne s'appliquent pas dans l'espace. Et le droit spatial fait que
bon, alors
il peut y avoir une appropriation par l'usage, comme on est en train de s'approprier par l'usage Elon Musk.
La manière d'occuper l'espace est prégnante dans tous les domaines. Hein. Effectivement, mm-hmm. À qui appartient la Lune, à qui va appartenir Mars, à qui appartient l'espace. On sait que l'espèce humaine ne se donne pas de limites, elle se sent dominatrice même sur le règne animal et végétal. Et là, on parle effectivement de ce qui nous intéresse tout de suite. Nous, les astronomes, on est intéressés par ça et pas seulement. Mais on vit aussi dans un brouillard électromagnétique incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une pollution électromagnétique, vous n'en avez pas parlé, mais c'est également un problème. C'est-à-dire que... Différents domaines de fréquences électromagnétiques sont occupés par des bruits parasites qui empêchent d'ailleurs d'observer pour les radioastronomes dans certaines fréquences, mais qui occupent aussi, qui gênent effectivement l'émission, etc. Sans parler de toutes les craintes qui sont suscitées par les 4G, 5G, etc.
Oui, je me souviens, il y a à peu près un an, pareil, en été 2019, d'un très bon article dans le New York Times sur cette question. Ben, en fait, on va avoir aussi des... on a des territoires qui commencent à valoriser aussi le fait d'être des zones blanches. Voilà, donc plus pour les questions sanitaires d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, mais c'est tout à fait... On peut imaginer une valorisation territoriale pour des radioastronomes amateurs, en disant, venez chez nous faire de la radioastronomie pendant votre été, parce qu'on est zone blanche. La question, elle est la même. Vous froncez les sourcils, mais...
La radioastronomie, je ne sais pas, mais...
Vous froncez les sourcils, mais je donne dans la conclusion de mon bouquin un exemple très concret. Je pars d'une citation de Günther Anders qui parle d'incompétence commerciale du cosmos pour dire, en gros, aux yeux des économistes, le truc qui n'a pas de valeur, c'est la Voie lactée. Or, on voit aujourd'hui que la Voie lactée est valorisée et on est capable de lui mettre une valeur sur le ciel étoilé. Un article est paru en octobre 2019 de collègues économistes qui ont quantifié, mesuré la valeur du ciel étoilé en Arizona, du point de vue touristique. Par des théories, enfin par des pratiques économiques, des méthodes économiques de consentement à payer, direct, indirect, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Quand vous dites la disparition, je passe à un tout autre sujet, mais vous allez voir comment je reviens. Quand on dit les services écosystémiques rendus par les insectes pollinisateurs, en fait, ça vaut tant. En fait, ils nous fournissent gratuitement un service qui autrement voudrait tant. Qu'est-ce que vous faites? Et ça a été montré par des chercheurs, ça a été relayé dans la presse, par des économistes très sérieux. Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous êtes en train de dire au marché, avec sa fameuse main invisible, ben regardez, le marché de la pollinisation, des arbres fruitiers par exemple, par les insectes, ça vaut tant. Donc, qu'est-ce qu'on a intérêt à faire quand on est spéculateur, quand on est businessman? Laissez faire. Flinguer les insectes pollinisateurs. Et moi, je remplace ça par des micro-drones pollinisateurs. C'est en train de se passer. Donc, quand je parle de mise en marché du ciel étoilé, je veux dire, quand vous en arrivez à des émissions comme celle-ci, où vous avez un show, vous trouverez le lien sur Internet pour les personnes qui le veulent, hein, à partir des ateliers d'anthropologie, vous verrez l'émission. C'est la lutte. À qui sera le territoire depuis lequel on peut observer le meilleur ciel étoilé? Vous êtes dans le dogme de la concurrence territoriale. Voilà. Je tiens vraiment à préciser ça. Et c'est mon rôle de chercheur en sciences sociales que de le dire. C'est mon rôle que d'alerter là-dessus.
Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Oui.
Oui, alors ça... Un commentaire par rapport à cette valorisation mercantile, on va dire, de ces sites particuliers. Est-ce que c'est un mal nécessaire du point de vue des associations, des acteurs ou enfin voilà, comment est-ce que c'est perçu?
Peut-être. Moi, là vraiment, j'ai pas à dire c'est bien, c'est mal. Moi, j'ai à montrer les différents possibles en termes d'action territoriale et de dire, ben oui, il y a un continuum entre préservation utilitariste avec une dimension marchande et préservation plutôt éco-centrée avec une dimension plus axée biodive. Et après, aux acteurs du territoire, moi, si vous voulez, je le répète à chaque fois quand j'interviens avec les territoires, en accompagnement des territoires, je n'ai pas de mandat électif. Ça n'est pas à moi de décider et de dire ce que doit être l'action d'un territoire pour préserver son obscurité. Et de dire qu'elle doit être... Si vous voulez, ce qui est intéressant en plus, c'est que ça renvoie à quelque chose d'assez important. Le problème de la pollution lumineuse a émergé en grande partie parce qu'on a normalisé ce que devait être le bon éclairage en fonction du type d'espace. Donc, c'est les années 1930, je l'explique bien dans le bouquin, c'est l'ère fonctionnaliste, c'est le mouvement moderne, on normalise ce que doit être le bon éclairage, tel espace à tel usage. S'il a tel usage, on y met tel éclairage et telle quantité d'éclairage. S'il y a tant de véhicules par nuit ou par jour qui passent, telle quantité d'éclairage, etc. On a normalisé et puis on a multiplié les points lumineux à une époque où l'énergie, en partie électronucléaire, n'était pas très chère et il y avait une politique très incitatrice de la part d'EDF. Effectivement, il y a des luttes d'intérêts. Il y a toujours des luttes d'intérêts dans tout sujet a fortiori les sujets environnementaux. Mais si vous voulez, voilà, on a normalisé ce que devait être la fabrique urbaine et ce que devait être le bon éclairage urbain. J'ai pas envie qu'on normalise, et là c'est moi personnellement qui parle, hein, pas en tant que chercheur, mais c'est avec quand même quelques années d'expérience, et ça me paraît insensé de dire il faut à tout prix normaliser ce que doit être la bonne obscurité. C'est un enjeu politique. Donc si c'est un enjeu politique, mettons-le à la discussion. Mais par contre, ne le discutons pas seulement avec la question sécuritaire, la question énergétique et l'élu. Faisons intervenir les associations d'astronomes, les associations environnementales. Faisons intervenir des scolaires, des enfants qui vont lui dire « Bah ouais, moi j'aime bien regarder le ciel étoilé. Eh oui, quand je regarde le ciel étoilé, je pense à des membres de ma famille qui sont morts. » Voilà, qui vont exprimer d'autres rapports expérientiels à cette obscurité, à ce ciel étoilé, que le seul rapport utilitariste du technicien du syndicat d'énergie, du technicien d'EDF, etc., etc., de l'élu qui va penser à sa responsabilité pénale, juridique. Voilà, c'est ça, faire politique autour de ce sujet-là. C'est pas dire, est-ce qu'avec un luxe-mètre, est-ce que le niveau d'éclairement est bon ? Ça, je vais être provocateur, mais je m'en fous. Je m'en fiche. Le sujet politique de fond, il n'est pas là, si on veut changer en profondeur. Parce que si vous arrivez avec un luxe-mètre, Jean-Philippe Delorme, directeur du Parc national de la Réunion, me dit, mais Samuel, moi j'ai un problème, c'est que si j'applique aujourd'hui les nouveaux arrêtés de décembre 2018, ben mon île, pas comme ça, mais l'éclairage de l'île, en gros, mais il double, et on sera encore dans les clous. Vous voyez, et il respectera complètement le droit et la norme en matière d'éclairage. Donc faire un droit de l'éclairage artificiel, ça ne fait pas un droit à la nuit, ça ne fait pas un droit à l'obscurité. Faire un droit à l'obscurité, défendre un droit à l'obscurité, c'est dire, en fait, l'éclairage artificiel, il est discutable et c'est légitime. Et moi, quand je suis habitant d'un parc naturel régional, quand je suis habitant d'une ville, j'ai droit d'aller poser la question à mon élu. Pourquoi vous ne coupez pas l'éclairage public de telle heure à telle heure ? Pourquoi vous ne considérez pas plus la beauté du ciel étoilé ou la problématique des non-humains, dont on a vu pendant le confinement qu'ils étaient aussi dans la ville ? Ces animaux, cette biodiversité ordinaire. C'est ça, faire politique. C'est ça, pour moi, le vrai sujet de fond du point de vue politique.
Très bien. Ben je crois qu'on va peut-être arrêter cette passionnante discussion et cette conférence. Moi, je conclurai en disant qu'il faut effectivement faire très attention car trop de lumière nuit, hein, si vous me permettez de terminer comme ça. Et donc, rendez-vous. Donc, merci. On vous applaudit encore une fois. Désolé de ne pas avoir de sonorimètre. Merci. De sonomètre, je ne sais pas comment on appelle. Et en tout cas, donc, nous vous convoquons le mois prochain, le 6 octobre, dans les mêmes conditions. Peut-être qu'elles s'amélioreront. Il y aura peut-être plus de monde à l'IAP, j'espère encore. Merci.
Merci. Bonsoir. À vous. Merci beaucoup.